Donc le jeudi 4 novembre, c'est le rassemblement Place de la Fusterie de 6h15 à 7h moins le quart. Et le vendredi 19 novembre, c'est la réunion des femmes en noir à 20h30 au Centre de loisirs des Astères. Et ce sera en même temps notre assemblée constitutive pour notre action Medica Zenica.
Oui, justement, à propos de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la guerre risquait de durer encore un certain temps. D'abord, c'est le risque d'extension dont tout le monde connaît un peu l'existence, l'extension au Kosovo et à la Macédoine. Mais aussi, lorsque nous étions à Belgrade, justement, il y avait un certain nombre de femmes du Monténégro. Monténégro, donc, pour les auditrices et auditeurs qui ne savent pas, fait partie donc de la Grande Serbie. Hein. C'est un territoire où il y a à peu près 600 à 700 000 personnes qui sont rattachées à la Serbie. Hein. Et là, les temps sont très 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 importantes entre le Monténégro et la Serbie en ce moment, dans cette période actuelle. Et bon, plusieurs femmes ont fait état justement de ces tensions et de la volonté d'autonomie du Monténégro. On va se retrouver avec toute une série de petits pays, de républiques bananières, dans toute l'ancienne ex-Yougoslavie, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose à quoi il faut que nous soyons très, très vigilants. C'est sur l'espèce de dynamique d'éclatement, de ce pays, où chacun a l'impression qu'il est tellement différent de l'autre.
Et j'aimerais peut-être terminer par une petite anecdote. Donc une femme bosniaque devant l'ONU, lors de la conférence des droits de l'homme à Vienne, en juin, avait dit la chose suivante. « La Bosnie est un beau jardin, avec de nombreuses fleurs différentes. » S'ils veulent en faire un jardin avec une seule sorte de fleur, ce ne sera jamais aussi joli. Et c'est voilà, c'est ça l'histoire de la résistance. C'est que malgré toutes ces violences, les gens veulent continuer à vivre toujours ensemble.
Voilà, c'était le témoignage de deux femmes en noir de Genève, Rina Anissim et Françoise Bloch, de retour de Belgrade, où elles étaient invitées par les femmes en noir de cette ville. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Remue Ménage aujourd'hui, c'est terminé. Je vous rappelle le rendez-vous du premier jeudi de chaque mois à 18h30 à Genève sur la place de la Fusterie. C'est là que se retrouvent les femmes en noir. Et puis, je vous rappelle aussi le soutien au projet de Zenica, Femmes en noir Genève. Voilà, dans quelques instants, c'est les nouvelles de Radio Pleine Lune. Et la femme que vous entendez maintenant, c'est Ginesa Ortega qui a chanté avec l'orchestre de la Fura dels Baus.
Megahertz, ondes femmes, radiozone. On a pour aujourd'hui changé d'animateur, mais comme à la radio, c'est dans vos oreilles avec Radio Pleine Lune 3.8 MHz dans quelques instants, nos nouvelles.
Charlotte, tell if you know why.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, en femme, Radio Zone, nos nouvelles. Élections en Jordanie la semaine dernière, les modérés sont majoritaires aux élections législatives. 534 candidats se sont présentés et, grande première, trois femmes étaient en lice ce jour-là. Une femme a même été élue à l'un des trois sièges réservés aux Tcherkesses, ce sont les circassiens, qui sont représentés à la Chambre. Ceci constitue une grande première dans l'histoire de la Jordanie. Il s'agit de Madame Toujane Faisal, qui est farouchement opposée aux islamistes qu'il avait accusés d'apostasie. De Benazir à la présidence du Pakistan. Cette victoire renforce la position de Madame Bhutto et de son parti. Il s'agit de Farooq Leghari, qui est comme Benazir Bhutto, un grand propriétaire. Tension entre Paris et l'Iran à cause de la venue à Paris de Mariam Rajavi, ex-chef des Moudjahidines du peuple. La récente venue en France de Mariam Rajavi, profitant d'un statut de réfugié politique obtenu en 1983 et renouvelé en 1991, est embarrassante pour le gouvernement de Téhéran. L'ancienne responsable des Moudjahidines du peuple, récemment désignée comme future présidente de l'Iran par des instances proches de ce parti, est en effet l'une des bêtes noires du régime. Épouse du leader de l'organisation Massoud Rajavi, elle dirigeait naguère encore l'armée de libération nationale, dont le but est toujours de renverser par la force le pouvoir islamique. Si Paris persiste à accueillir Madame Rajavi, l'Iran saura qu'il faut punir ceux qui soutiennent des terroristes sauvages, a souligné hier un quotidien iranien. Jeudi, deux grenades offensives ont été lancées contre l'ambassade de France et les locaux d'Air France à Téhéran. Si l'on peut s'attendre à ce que Téhéran maintienne certaines pressions sur Paris pour que Mariam Rajavi ne bénéficie pas d'un statut de réfugié politique. En France, nouvelle affaire du foulard avec l'exclusion d'une école à Nantua de quatre jeunes musulmanes qui sont donc exclus du collège de Nantua. C'est la décision du proviseur de cette cité scolaire qui a donc pris la décision d'exclure les quatre jeunes élèves musulmanes des classes de 6e et de 4e si elles continuent à se présenter à leur cours vêtues de voiles islamiques. Dans un premier temps, il s'agit d'une mesure d'exclusion temporaire de 8 jours. Le port du foulard islamique par 4 jeunes filles, 2 sœurs marocaines et 2 adolescentes turques avait dès la rentrée créé une certaine effervescence dans la cité scolaire de Nantua, qui entre le lycée et le collège regroupe 1500 élèves et 110 professeurs. L'affaire avait éclaté à la suite du refus d'un professeur d'éducation physique d'accueillir l'une des jeunes marocaines voilées dans son cours. À la suite de ce refus, il y avait eu d'ailleurs une grève de protestation et de soutien de la part des autres professeurs. La décision d'exclusion risque de susciter beaucoup d'amertume chez l'ensemble des protagonistes de l'affaire. Elle risque également de provoquer un certain émoi, sinon des remous, dans un secteur qui compte plus de 30% de population immigrée et qui, en un an, a vu progresser de façon significative son taux de chômage. Rappelons également que cette affaire a provoqué l'expulsion de l'imam turc qui avait déclaré au Figaro « la loi d'Allah doit être suivie avant la loi française ». Autre controverse sur une femme musulmane, cette fois-ci autour d'une carte d'identité délivrée dans l'Isère. Une jeune femme française convertie à l'islam qui avait demandé à figurer la tête voilée sur la photographie de sa carte d'identité affirme s'être vue délivrée au mois de mars par la sous-préfecture de la Tour du Pin en Isère. Une carte portant au titre des signes particuliers la mention, je cite, « musulman très pratiquant ». Le sous-préfet de l'Isère n'exclut pas une initiative malheureuse d'un fonctionnaire. L'Allemagne L'Allemagne se prépare à une grande grève des femmes en 1994. Les mouvements féministes allemands appellent effectivement à une grève pour le 8 mars, journée internationale des femmes en 1994. Les femmes rappellent que le rétablissement d'une grande Allemagne s'est fait aux frais des réfugiés et aux frais des autres, des faibles et des pauvres, et surtout aux frais des femmes. Elles appellent donc à une grève des femmes, comme en 1975, il y a eu une grande grève en Islande, comme il y a 2 ans, une grande grève en Suisse. C'est nous, disent-elles, qui allons faire grève. Les femmes arrêteront le travail domestique, feront grève sur leur lieu de travail, pratiqueront la grève du zèle, elles feront la grève de la consommation, ne feront pas leurs courses, ne souriront plus poliment, elles ne seront pas gentilles, ne feront pas le café et confieront leurs enfants à leurs maris qui devront les amener à leur travail. Notre action collective, disent-elles encore, est solidaire, sera spectaculaire et insolente. On se réjouit de les voir. À Paris, une grève des pervenches ex-aubergines, vous l'avez compris, ce sont ces femmes qui mettent des contraventions. Eh bien, les pervenches ont fait relâche. Ce mouvement de relâche des contraventions s'est passé le 4 novembre et a été très largement suivi à Paris par plus de 80% de ces fameuses pervenches. Ce mouvement est motivé par l'absence de dialogue sur leurs revendications relatives au logement, au transport, aux rémunérations de ce corps d'agents payés par la ville de Paris. Le produit des contraventions n'est pas négligeable et remplit assez bien les caisses de l'État. Il s'agit d'un montant de 370 millions de francs qui a été ainsi ramassé en 1992. On comprend que de telles sommes confortent les pervenches dans leur volonté d'améliorer leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail. En Angleterre, un projet d'économie budgétaire sur le dos des mères célibataires est vivement critiqué. Deux phénomènes sociaux qui ont façonné la Grande-Bretagne au XXe siècle sont en voie de disparaître. D'une part, l'État-providence qui prenait en charge les individus du berceau à la tombe, et de l'autre, une société permissive des années 60 accordant une plus grande liberté de mœurs. Pour le gouvernement conservateur de M. Major, il faut retourner à des valeurs traditionnelles basées sur la famille et la discipline. Le premier groupe visé est celui des mères célibataires. Un document d'études ministérielles montre en effet que les familles monoparentales seraient responsables de la montée des délits et de toute façon coûtent trop cher aux caisses de l'État. En 1971, il y avait en Angleterre 245 000 familles de ce type, surtout des mères célibataires très jeunes. Aujourd'hui, elles sont plus d'un million et vont dépasser presque les 1,7 million à la fin du siècle. Elles reçoivent à présent l'équivalent de 16 milliards de francs suisses en aides de toutes sortes. De là à dire que certaines adolescentes tombent enceintes exprès pour bénéficier de cette aide, il n'y a qu'un pas que le gouvernement conservateur vient de franchir allègrement. Les adversaires de cette théorie rétorquent qu'il vaut mieux être élevé par une mère seule que par un couple qui se chicane sans cesse. Quoi qu'il en soit, les critiques ne manquent pas de s'élever pour trouver désagréable que le gouvernement de M. Major s'attaque à un groupe de très jeunes mères pauvres qui ont commis une erreur honnête, pour reprendre l'expression de l'une d'entre elles. Toujours en Angleterre, bientôt des prêtresses anglaises. La voie est ouverte pour les prêtresses anglicanes en Angleterre. Le dernier obstacle a été levé. La Chambre des Lords a accepté le principe suivant le vote positif de la Chambre des communes la semaine dernière. Les premières prêtresses pourront célébrer la communion au printemps prochain. Une compensation financière sera versée aux prêtres réfractaires qui décident de quitter l'Église. Leur nombre pourrait s'élever à 1 million. On ne voit pas pourquoi on n'a jamais proposé aux femmes qui voulaient depuis longtemps dire la messe une compensation financière. En Allemagne, le Congrès fédéral des Verts a décidé ce week-end de placer une femme en tête de toutes les listes électorales du parti. Dans la hiérarchie interne du parti, elles doivent désormais occuper la moitié des sièges. Les Verts français passent dans le camp de Mme Voynet. Face à une nouvelle majorité de gauche, Antoine Wächter devrait perdre la tête du mouvement. L'Assemblée générale des Verts écologistes s'est prononcée le week-end dernier pour un recentrage à gauche de l'échiquier politique français avec une nouvelle majorité favorable à Mme Dominique Voynet, une des quatre porte-parole du parti. La victoire politique de Mme Voynet et son charisme, sensiblement supérieur à celui de Wechter, sont deux atouts majeurs pour en faire la nouvelle figure de proue du mouvement écologiste. Elle a été la seule candidate des Verts à atteindre le second tour des législatives en mars 1993. Dominique Voynet est opposée à l'isolationnisme politique wechterien depuis plusieurs années et a fondé la tendance vert pluriel. En juin dernier, elle avait déclaré que les Verts sont clairement dans l'opposition à Balladur, le Premier ministre, conservateur. On peut être dans l'opposition à Balladur et être indépendant sans être forcément enrégimenté dans des opérations de restructuration de la gauche, avait-elle ajouté. En Suisse, à Genève, mini-révolution électorale, la droite se muscle et prend tout le pouvoir en raflant les 7 sièges du Conseil d'État. Martine Brunschwig-Graf, libérale, est la première femme à être élue à l'exécutif genevois. Elle dirigera le département de l'instruction publique. Annonçant dès sa première déclaration qu'elle n'est pas féministe, pour elle, dit-elle, je n'ai jamais prétendu représenter les femmes, mais mon élection signifie qu'une femme peut accéder à toutes les fonctions. D'autre part, elle a rajouté, être femme, c'est une responsabilité de plus. Quand on sait les difficultés que les programmes ultralibéraux à la Thatcher ont amenées pour les femmes, on n'a pas tellement envie de se féliciter de l'élection de cette représentante des sociétés patronales. Dans la gauche, grande perdante face à la stratégie électorale des bourgeois, Micheline Calmiret arrive en tête du peloton. Pendant ce temps, à Lausanne, la gauche triomphe. La municipalité sera composée de 3 socialistes et d'un écologiste, dont bien sûr la syndic Yvette Yegui, qui sera alliée à l'écologiste Daniel Brella. Radicaux et libéraux se contentent de 3 sièges. Il y aura aussi une grande nouveauté, la présence de 2 femmes à côté de Yvette Yegui, socialiste. On verra la radicale Doris Cohen-Dumagny. Yvette Yegui sera donc reconduite tacitement à la fonction de syndic. En parlant d'ailleurs des exécutives suisses, la Genève, avec l'élection de Martine Brunschwig-Graf, rejoint les 12 cantons qui ont déjà une conseillère d'État. 12 femmes dans l'histoire suisse ont déjà été élues dans des exécutifs cantonaux. 10 d'entre elles sont actuellement au pouvoir. Elles indiquent une amorce, très petite, de changement dans les mentalités. C'est Zurich qui a démarré en 1983 avec l'élection d'Eddy Lang, socialiste à l'économie publique, suivie par Lucerne, Soleure, Obwald, Fribourg, Bâle-Ville, Schwyz, Berne, Argovie et dans le Jura où Odile Montavo, du combat socialiste, a été élu à l'éducation en 1993. À Zurich, un concours de top modèle en solidarité avec les malades du sida. Un concours a eu lieu à Zurich pour le titre de World Top Model 1993. Ce concours était donné au profit de l'aide suisse contre le sida et de l'association des personnes vivant avec le sida. En fin de soirée, ces 2 associations ont reçu un chèque de 50 000 francs. L'Office cantonal de la population s'inquiète et s'affole. Il y aurait trop de mariages blancs et il dénonce au minimum 3 fausses unions par semaine. C'est Félix Goetz, directeur de l'Office cantonal de la population, qui a levé ce lapin, si l'on peut dire. Il y a trop de mariages blancs et de ce fait, il a commencé à accroître les contrôles sur ceux qu'il appelle des mariages boiteux. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des mariages entre Suisses et étrangers ou étrangères. Puisque désormais, il faut également vérifier la sincérité des sentiments féminins. En effet, le mariage avec une Suisse ou avec un Suisse donne les mêmes droits à avoir une carte de séjour. Sans compter, ajoute Goetz, la pression migratoire toujours plus forte et la masse de requérants d'asile qui arrivent maintenant en fin de procédure. Les couples sont souvent dénoncés, reconnaît Félix Goetz, qui demande, lorsque le mariage semble vraiment douteux, une instruction policière. À ce propos d'ailleurs des mariages blancs, pourquoi est-ce qu'on se marie ? comme ça, donc en blanc, c'est pas de la robe auquel on fait allusion, mais bien au fait de se marier pour avoir des papiers. C'est bien dû à la difficulté d'avoir des papiers et à cet afflux de femmes qui arrivent ou d'hommes qui arrivent en Suisse. Et il est vrai que ces migrations forcées en Europe ne font qu'augmenter et que des nouveaux marchés de la traite des femmes apparaissent. Les trafics internationaux de femmes et de jeunes filles, soit pour les mariages, soit la prostitution, soit la mise à disposition de main-d'œuvre féminine illégale, de négoces, de la pornographie, etc., sont une des variantes spécifiques des mouvements migratoires que l'on trouve dans le monde entier. Plus les différences économiques entre les régions d'exportation et d'importation sont grandes, bien sûr, plus l'exploitation a des chances de prospérer. Ils ne font donc pas s'étonner si, à la suite de la réorganisation des frontières économiques et politiques entre l'Est et l'Ouest, on assiste depuis quelques années en Europe à un trafic toujours plus intense de femmes des pays de l'Est en direction de l'Ouest. Alors que jusqu'au milieu des années 80, ce trafic concernait plutôt des femmes d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Asie, bien sûr, avec la Thaïlande, etc. Mais depuis 1989, depuis l'ex-Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et enfin l'URSS, que arrivent massivement des femmes. En 1992, on notait en Suisse plus de 300 femmes de l'Europe de l'Est qui s'adonnaient à des activités dites d'animation et de striptease. Les filles sont soit appâtées par des annonces de mariage, soit pratiquement enlevées. Les courtiers en mariage, à leur tour, se tournent vers les pays de l'Est et vantent à leurs clients les qualités de nouvelles candidates, polonaises travailleuses, tchèques et hongroises cultivées, russes mystérieuses. Ces femmes sont souvent disposées à émigrer pour échapper au chômage qui frappe en priorité la main-d'œuvre féminine et aux difficultés de l'existence, notamment pour les mères célibataires, mais aussi dans l'espoir de jouir de plus de droits, de liberté et de possibilités d'ascension sociale. Suite à un crime perpétré par un délinquant sexuel en permission, les directeurs des pénitenciers de Suisse et les spécialistes ne voient dans l'ensemble aucune raison de durcir leur politique en matière d'octroi de congés aux délinquants sexuels. Des adaptations sont à l'étude, cependant, notamment à Zurich, où les autorités proposent que les femmes fassent partie des instances qui accordent des permissions. Si chaque cas de récidive est de trop, le taux de celle-ci reste très très minime. En Suisse, la crise touche principalement les femmes, les jeunes et les retraités. La crise économique touche plus durement les femmes, les jeunes et les retraités actifs. C'est le principal enseignement d'une enquête de l'Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, une autre étude montre qu'il est plus difficile pour une femme d'être au chômage, car dans toute la société, il devient évident qu'une femme, finalement, elle n'a qu'à rentrer à la maison. Dans l'opinion publique, l'idée persiste selon laquelle le chômage est moins grave pour les femmes que pour l'homme. L'image du rôle traditionnel de la femme à la maison y est pour beaucoup, indiquent Ingrid Biermann et Lindy Zibel, deux chercheuses qui se sont intéressées à la question et qui la résument en ces termes. La chômeuse n'a qu'à retourner à son ménage, le chômeur, lui, n'a que le néant. Elles ont toujours quelque chose à faire, que ce soit la cuisine, des nettoyages ou du tricot. La psychologue bernoise Luisa Truninger avait déjà constaté dans son étude que les femmes confrontées au chômage doivent affronter en plus le fait qu'elles ne sont pas prises au sérieux. Elles doivent souvent justifier l'importance qu'elles accordent à leur salaire. L'homme, bien sûr, ne doit pas le faire. En période de récession, des notions telles que le double salaire ou le salaire d'appoint reviennent souvent pour parler du travail des femmes. Une idée simpliste pour résoudre la crise propose de supprimer les doubles revenus, mais le salaire que l'on qualifie de double est toujours celui de la femme, jamais celui de l'homme, constatent les deux enquêteuses. C'était C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, des rendez-vous. Restez à l'écoute sur 93.8 MHz.
Charlie, tell these people about it. I said, what is good? See you, we are. So, Abby. Was wondering
Yeah.